Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jeudard le 26 mai 89.
Vous avez dit. Vous avez dit en théologie naturelle que les différences viennent de notre corps. Ne doit-on pas plutôt dire que notre corps manifeste nos différences, puisque notre corps est ce qu'il est à cause de notre âme? Oui, on joue dans les deux sens. C'est toujours très délicat cette question-là. Je vous ai répété ce que saint Thomas a dit. Je sais qu'en philosophie, quand on traite de la question de l'individuation, c'est une question très délicate. C'est évident que ça vient de notre âme, puisque notre corps n'est notre corps que par l'âme. Ça ne veut pas dire que le corps n'est pas ce qui implique l'individuation. Notre âme est la même pour chacun d'entre nous, spécifiquement. Autrement, nous aurions chacune une nature qui serait particulière. Notre âme spécifiquement est la même. Je suis désolé, mais comme ça, vous n'avez pas une âme spécifiquement distincte. Vous n'êtes pas la Gabriélité. Jour de votre prise d'habit, on ne vous dit pas votre nom, c'est ça. Et c'est le nom de votre âme. C'est le nom de votre personne. Tandis que l'ange, il a un nom particulier qui fait que le cou et le quad se rejoignent. Ce par quoi Gabriel est Gabriel, c'est sa gabriélité. Pour nous, notre individuation, fondamentalement, est notre corps. Je ne peux pas expliquer ici, parce que je ferai tout un cours sur l'individuation. C'est une question très délicate. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas commode du tout. Mais ça ne peut pas être fondamentalement notre âme. Mais notre âme est individuée dans la mesure où elle informe le corps. Et alors, notre âme s'individualise dans son exercice propre pour chacun d'entre nous. Mais comme le philosophe analyse, il veut trouver le principe propre. Mais psychologiquement, je comprends très bien que c'est notre âme qui nous individualise. Notre personnalité vient de notre âme. Notre personne vient de notre âme. Notre personne, c'est un tout. Alors, notre individualité, ce par quoi nous nous distinguons des autres, c'est notre corps et notre quantité. Mais, comme notre corps et notre quantité sont liés substantiellement à l'âme, c'est évidemment l'âme. C'est sûr, parce que je ne peux pas séparer le corps de l'âme. Donc je dis corps vivant, et le corps vivant, il est animé par l'âme. Mais si j'analyse le quoi, ce par quoi je suis séparé des autres, c'est le point de vue du corps. D'où l'importance des mathématiques dans la quantité, vous voyez, et les relations. C'est vrai que c'est ça qui m'individualise. C'est très très curieux tout ça. Mais je ne peux pas entrer trop ici dedans. Alors, réfléchissez sur ce problème de l'individuation. C'est un très gros problème. Et je crois qu'on ne peut le comprendre qu'en métaphysique. C'est la substance qui est individualisée. message du TST au POS. Le POS est individualisé. Mais le TST est commun. Comme principe. Votre âme, principe de votre vie, est spécifiquement la même que celle de votre voisin. Ça peut vous gêner beaucoup, mais il faut aller au-delà de cette gêne et découvrir que vous avez le même principe qui vous spécifie. C'est ce qui explique la vie commune. La vie commune est très enracinée. Il n'y a pas de vie commune dans les anges. Ô bienheureux ange, pas de vie commune. Il n'y a qu'une vie commune surnaturelle. Alors là, c'est parfait, dans la foi, l'espérance et la charité. Mais pas de vie commune naturelle. Ils sont tous des contemplatifs et des ermites. Ils ont tous leur cabane séparée. Comme ils n'ont pas de corps, ils n'en ont pas besoin. Donc c'est leur âme qui les met dans cette solitude. Donc je ne réponds pas parce que c'est très complexe. Un problème très complexe. Ceux qui veulent avoir tout de suite une certaine orientation, qu'ils regardent dans le livre sur l'être, le passage de l'individuation. Alors, je continue la question des sens. Alors, je vous lis ce petit passage, parce que c'est quand même très intéressant, à propos de la vue et du visible. L'objet de la vue, c'est le visible. Merveilleuse tautologie. L'objet de la vue, c'est le visible. Le visible, c'est à la fois la couleur et un objet dont le discours peut traiter, mais qui reste innommé. Le quod, ce qui est vu. Au sens strict, ce qui est vu, ce n'est pas le visible, c'est la réalité vue et c'est l'intelligence. Vous voyez ? Et le visible va se diviser en deux. C'est la couleur, mais la couleur n'est visible que grâce à la lumière. La nuit, qu'est-ce que vous voyez? C'est la lumière qui actue le milieu et qui permet à la couleur d'être visible. Sauf les vers luisants, la nuit. Alors ils ont une couleur qui émane d'eux. De sorte que vous distinguez toujours, lorsque vous faites l'analyse de ce qui est vu, vous dites le visible. Le visible, la vision. Le visible, actue. La vision. La vision qui est du côté de celui qui voit. Et à travers le visible, vous voyez ce qui est vu. Je vois cet arbre. Je vois le ciel. Ce qui est vu. Bon, ce qui est vu, en réalité, n'est pas visible. Au sens strict. Il est visible grâce à la couleur et grâce à la lumière. La raison formelle qui actue en dernier lieu, c'est la lumière. La couleur, c'est encore la raison formelle, c'est ce qui détermine, c'est ce qui spécifie. Et ceci, c'est, la scolastique dira, c'est l'objet matériel, ce qui est vu. Et l'objet matériel est vu parce que mon intelligence se sert de la vision. Mon jugement d'existence porte sur ce qui est vu. Ceci existe. Mais l'exister n'est pas visible. Il n'est connu que par l'intelligence. L'être n'est pas visible. C'est la qualité. La qualité, la couleur, c'est la qualité. Une qualité sensible. spécifie, et qui spécifie sous le point de vue de la lumière. Alors, Aristote dit que la lumière actue le diaphane, le milieu ambiant, sur lequel, par lequel la couleur permet d'actuer. Alors, dans la vision, je précise la vision de quoi ? C'est-à-dire la vision de ce bleu du ciel. Tout illuminé. Vous voyez, ce bleu du ciel, tout illuminé. C'est vrai, il est tout illuminé. Donc, c'est la vision de quelque chose. Et cette vision implique donc ce qui spécifie l'objet, qui spécifie, j'analyse, et le sujet qui voit. Le sujet voyant. L'aveugle qui est guéri par Jésus, il commence par voir en confusion les arbres. C'est comme des arbres. Je ne vois pas très bien comment il dit comme des arbres, parce qu'il n'avait pas vu d'arbre avant. Mais ça fait rien. Il dit, c'est comme des arbres. Alors, il dit, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Alors, il avait décrit des arbres. C'est comme des arbres. Et après, ah, c'est précis. C'est vrai, dans le brouillard, vous voyez quelque chose qui avance. Deux yeux, ça doit être une auto. Je vois des yeux, vous savez bien, le curé d'Ars, qui est le petit gosse qui était comme ça en silence. Qu'est-ce que tu fais ? Jette ton œil. C'est le gosse qui se confesse, qui regarde l'œil du curé d'Ars, parce qu'il était particulièrement lumineux. Alors, je regarde ton œil. Dans le brouillard, on voit les yeux. Et c'est le regard. Les yeux, c'est la lumière. Vous voyez, alors, on précise l'objet matériel, ce qui est vu. Ce qui est vu. Et c'est pas la vision qui voit ça. La vision, au sens strict, ne voit que la couleur. Et voit la couleur par la lumière. Et il y a celui qui voit, oui.
Le relief.
Parce qu'il y a deux yeux. Grâce aux deux yeux, vous voyez le relief. Et le relief, c'est la manière dont vous voyez le mode. Vous voyez ? Parce que vous analysez un œil. Les deux, c'est déjà le sujet voyant. Ça qui est très curieux. Donc ce n'est pas la vision au sens strict. Le relief, c'est déjà le sujet voyant. Et alors, le relief, c'est le sujet voyant qui se sert de deux. Vous voyez ? Et grâce aux deux, il voit mieux. Quand je dis, par exemple, qu'en théologie, vous avez toujours deux analogies. Vous avez deux yeux. Le sujet voyant a deux yeux. A deux, pour mieux voir. Et on fait le relief. Donc, ce n'est pas l'analyse de la vision. C'est une modalité. Et si vous n'aviez qu'un œil, le cyclope, je n'ai jamais rencontré de cyclope dans ma vie, mais ce serait très intéressant de voir qu'est-ce qu'il voit, parce qu'il voit de façon étonnante. Mais ce mythe du cyclope, pourquoi ce mythe du cyclope ? Pourquoi ce symbolisme de l'aigle, qui est très haut, voit la petite souris dans le champ de blé ? L'aigle voit les petites souris. Grises. Oui. Et c'est ça qu'il aime de voir. Au milieu du champ de blé. Au milieu de la moisson est abondante. Petite souris. Alors, il y a un symbolisme particulier là. Alors ici, je lis encore ce passage. Donc, De Anima, c'est dans le Péripsuchès d'Aristote, livre 2, chapitre 7. Pour quelle raison la couleur ne peut être vue que dans la lumière ? Nous l'avons dit. Puisque la lumière actue et permet par le fait même de voir la couleur. Le feu, lui, est visible dans l'un et l'autre cas, aussi bien dans l'obscurité que dans la lumière. Et il ne peut être, il ne peut en être autrement, puisque c'est grâce à l'action du feu que le diaphane en puissance devient diaphane en acte. Le même raisonnement vaut aussi du son et de l'odeur. Ni l'un ni l'autre, en effet, ne provoque la sensation par contact avec l'organe sensoriel, mais sous l'action de l'odeur et du son. C'est le milieu qui est ébranlé, et celui-ci, à son tour, ébranle les organes correspondants. Si par contre, on place sur l'organe même l'objet sonore ou odorant, aucune sensation ne se produit. Pour le toucher et le goût, il en va de même, malgré les apparences contraires. La raison en deviendra claire par la suite. Le milieu sonore est l'air, tandis que le milieu olfactique ne porte pas de nom particulier. Ce dernier est en effet une sorte de propriété commune à l'air et à l'eau. Et ce que le diaphane est à la couleur, cette propriété de l'un et de l'autre élément l'est à l'objet odoriférant. L'expérience montre en effet que même les animaux aquatiques possèdent le sens de l'odorat. Mais l'homme et les animaux terrestres, doués de respiration, ne peuvent percevoir les odeurs sans respirer. La raison, encore une fois, en sera donnée plus loin. Alors là, c'est très intéressant, c'est une étude très curieuse, qui demanderait, j'en suis sûr aujourd'hui, d'être un peu purifiée. Le diaphane, pour Aristote, c'est le milieu qui permet la transmission de la couleur, de la lumière, et qui actue la couleur. Et ceci, l'expérience simple, que quand il fait nuit, vous ne voyez pas la couleur. Et quand il fait jour, vous voyez la couleur. C'est donc la lumière qui actue la couleur. L'expérience très simple. L'expérience directe. Aristote est très attentif à ça. Alors c'est le diaphane, c'est ça qu'il appelle le diaphane, le milieu dans lequel nous voyons les choses. Et quand on est là, quand on a les yeux dessus, on voit plus rien. On voit plus que des chandelles. Vous savez bien, quand on met son doigt dans l'œil. Vous ne voyez plus rien. Et quand vous mettez comme ça, plus rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la distance, le diaphane. C'est très curieux. Ce sont des observations toutes bêtes. Simple. C'est pas scientifique du tout, on dira. Mais non, mais c'est humain. C'est une expérience que tout le monde fait. Oui. Alors la science a étudié de façon étonnante l'œil. De façon étonnante, le fond de l'œil. C'est toujours intéressant de pouvoir parler à certains qui connaissent ça parfaitement. Mais ça ne dit rien sur la vision. Ça dit la cause matérielle et les dispositions de la cause matérielle, mais pas plus. Alors, c'est très important parce que la vieillesse porte sur l'organe physique, biologique, qui est fatigué. Pourquoi on est myope ? Comment les yeux fatigués, la myopie augmente. Et comme à un niveau particulier de myopie, on ne peut plus corriger. Il y a des limites. Comment à partir d'un certain âge, la myopie est corrigée par autre chose. Tout ça, c'est l'organe. C'est évident, on est très dépendant de l'organe. Et comment des peuples fatigués d'une culture très intellectuelle portent beaucoup plus de lunettes que des peuples moins fatigués. C'est la question de l'organe. Mais heureusement, la vision, ce n'est pas l'organe. Elle peut être myope et avoir une intensité de vision plus grande que quelqu'un qui n'est pas myope. très désagréable de porter des lunettes au début. Très désagréable, on se sent diminué. C'est du côté causalité matérielle. C'est comme quand on est diminué, quand on est fatigué. Et quand on est malade. Mais est-ce qu'on est moins homme ? Mon vieux, tu es fatigué, tu n'es plus que la moitié d'un homme. Pas du tout. Quelquefois, les gens fatigués ont une vie humaine beaucoup plus intense que des sportifs qui ne pensent pas un seul instant. Qui courent tout le temps. Ou qui ont des biceps énormes mais qui ne pensent pas. On les montre dans les foires. Mais comme qualité humaine, pas grand-chose. Et ça, c'est très intéressant de voir ça, parce que la faculté de vision, ça vient d'où ? La faculté de vision. Le sujet qui voit, le voyant. Le sujet voyant. Donc, la puissance, une puissance. J'infère une puissance vitale. Cette puissance vitale, je ne la connais qu'à travers la vision. Et cette puissance vitale, elle vient d'où ? Elle vient de l'âme. De l'âme sensible. Il y a l'âme végétative. C'est pas l'âme végétative qui sent. Quand j'ai mal à l'estomac, mon âme végétative est paresseuse. Pour des quantités de raisons. Parce que vous voyez, on cohabite. Hein? On cohabite l'âme végétative. Vous mettez au sous-sol, si vous voulez, avec les grosses machines. L'âme végétative. L'âme sensible, c'est celle qui reçoit. L'accueil. L'âme intellectuelle, celle qui réfléchit. Premier étage. L'âme contemplative, c'est l'âme intellectuelle qui, de temps en temps, contemple. Il y a un toit qui fait regarder le ciel. N'est-ce pas ? Tout ça cohabite. C'est évident. Ça cohabite. Alors, quand vous contemplez trop, quant à l'âme végétative, tu ne penses plus te nourrir. Il faut te nourrir. Primum vivere, secondo philosophare, donc contemplare. Alors, la vie végétative réclame. Elle réclame. Et la vie végétative porte un gros coup parce que nous sommes des êtres qui tendons vers la contemplation. Pas étonnant qu'au bout de 2 ans de noviciat, on soit fatigué. Quant à l'estomac, si vous aviez une vie sportive, ben oui, la vie végétative se porterait mieux. Et vous avez opté pour une vie contemplative, à vos risques et périls. Si vous voulez être uniquement un sportif, oh, alors n'entrez pas à Saint-Jean. Surtout pas, parce qu'au bout de 2 ans, votre estomac, il va crier un peu. C'est forcé, parce que tout est pour la vie contemplative. C'est pas drôle de cohabiter avec un contemplatif. Pas drôle du tout. Il y a la contemplation. Le mathématicien, c'est la même chose. Parce qu'il est distrait. Il oublie de manger, le mathématicien. Il oublie, c'est évident. Il est oublié en plein milieu d'un théorème. C'est l'heure du repas. Qu'est-ce que c'est que le repas ? C'est la vie végétative. Allez. Toutes les distractions des matheux, ils sont connus. Ils sont encore plus distraits que les contemplatifs. C'est très curieux. Ils sont encore plus distraits. Ils sont extraordinaires. Ils sont prêts par leur mathématique. C'est pas drôle, hein, de cohabiter avec un matheux, avec un contemplatif, pour l'estomac. C'est pas drôle du tout. Parce que toute la vie va du côté mathématique, va du côté contemplatif. Toute la vie va vers là. Et on passe très vite la vie végétative. Tandis que le sportif, il fait fais attention. Fais attention de manger qualitativement le mieux possible. Pas trop quantitativement, mais qualitativement le mieux possible pour mieux digérer et rapidement digérer et te libérer de la digestion. Tandis que si la digestion dure toute l'après-midi, post-chiboum, très difficile de spéculer. Très difficile. Vous voyez donc, c'est la cohabitation. L'âme végétative est fondement de l'âme sensitive. Mais les puissances émanent de la vie sensible. Donc, la vie sensible, du côté des puissances, ne se fatigue pas. Et même si les organes sont fatigués, les puissances ne connaissent pas la fatigue. Et le myope verra autre chose que celui qui a un regard extrêmement perçant. Il sera sensible à d'autres aspects. Et donc sa vision se modifie, mais il ne perd pas la vision. Et quelquefois, il est beaucoup plus attentif, parce qu'il a besoin de regarder plus attentivement qu'un autre. Très curieux ça. C'est très intéressant, oui, de bien regarder que la puissance vient de l'âme. Et la puissance n'est pas myope. La myopie regarde l'organe. Ça vient de l'organe. C'est pour ça qu'on peut la corriger, vous comprenez? Tandis que vous ne pouvez pas corriger l'attention. L'attention, c'est l'âme. C'est la volonté d'être attentif. D'être attentif à ce que je regarde. Et là, je suis directement relié à la volonté et à l'intelligence. Si je cultive mon intelligence dans un désir de vérité, et que je sais que toute vérité passe par les sens, je suis donc beaucoup plus attentif à toute ma vie sensitive. C'est pour ça que normalement, la philosophie me rend plus attentif à mes sensations. Parce que je sais que le réalisme de l'intelligence implique les sensations. Je me nourris de mes sensations. Et tout ce qui est dans mon intelligence est passé par les sensations. Donc je suis très attentif. Tandis que si j'étais platonicien, je crois que ça m'est égal. L'important c'est de vivre au-dedans de moi-même mes idées. Ce sont mes idées que je cultive. Mes sensations, pff, laissons ça. Alors, je m'en occupe plus. C'est peut-être très très bien pour la vie mystique, pour le platonisme qui est en moi, mais pas pour le réalisme. Alors maintenant, oui, mais ça c'est très important de regarder que de l'âme sensible va émaner la puissance de vision. La puissance d'audition, nous allons voir maintenant l'ouïe, la puissance du toucher, les cinq sens, ils émanent de l'âme sensible. Et de l'âme sensible va émaner aussi toutes les puissances affectives qui sont mes passions. Tout ce domaine sensible. Très particulier. Alors, le son et l'ouïe. Aristote, chapitre 8. À présent, traitons d'abord du son et de l'ouïe. Le son se dit de deux sens. Il y a le son en acte et le son en puissance. Ça, c'est tout à fait Aristote. Ditos. Le psophos, il se dit de deux manières. En acte. Energeia et Dunamei. Certaines choses, disons-nous, sont insonores. Alors, quelles sont les choses insonores? L'éponge, la laine, d'autres sont sonores, les reins et tous les objets durs et lisses, car ils sont capables de produire du son. l'éponge. Vous la mettez en dessous de vos pieds pour ne pas faire de bruit, n'est-ce pas? La laine, pas faire de bruit. Mais l'éponge, quand elle est pleine d'eau et que vous pressez dessus, alors elle est sonore. Non pas par elle-même, mais par l'eau qui tombe sur autre chose. Et ça vient de l'éponge. C'est très curieux hein, de voir qu'il y a des objets qui ne sont pas sonores et des objets qui sont sonores. Car ils sont capables de produire un son. C'est-à-dire d'émettre dans le milieu intermédiaire entre l'objet sonore et l'ouïe un son en acte. Alors qu'est-ce que c'est que le son? Vous comprenez que toute l'ouïe, écouter, c'est recevoir un son. Alors vous pouvez avoir l'organe fatigué, mesurer l'organe. Mais qu'est-ce qui est la faculté d'entendre? C'est pas l'organe. C'est cette puissance qui relève de votre âme végétative, de votre âme sensible. C'est votre âme sensible qui entend. C'est pas votre organe. Vous pouvez modifier l'organe, ça c'est sûr. Mais pouvez-vous modifier la puissance d'audition? Ce que vous pouvez, c'est rendre plus attentif au son. Il y a des personnes qui n'écoutent jamais rien. Elles parlent et elles n'écoutent pas. Et plus on parle, moins on écoute. Il y a des personnes qui écoutent. Écoutez. Est-ce que ça relève de la faculté de l'ouïe? Être attentif au cours, écouter. Ça relève de la volonté et de l'intelligence. Qui se sert alors de notre capacité de recevoir. Les sensations sont toujours du côté de la réceptivité. Il y a une réceptivité du côté de la vision, il y a une réceptivité du côté du son. Et il y a des personnes qui sont plus réceptives du côté de la vision, et des personnes qui sont plus réceptives du côté de l'ouïe. Et ça fait deux psychologies très différentes. La réceptivité du son est d'une certaine manière plus grande que la réceptivité du côté de la lumière. Il faut au moins se poser la question. Parce que toutes les sensations sont réceptives. Alors, où se trouve la plus grande réceptivité? Est-ce que c'est le son ou est-ce que c'est la lumière? La couleur. Je vous lis ce petit passage d'Aristote. C'est intéressant, c'est facile à comprendre. Or, le son en acte, venant à se produire, est toujours l'action de quelque chose, par rapport à quelque chose et dans quelque chose. C'est en effet un choc qui produit le son. Les chantres le savent très bien. Quand ils veulent produire le son, ils choquent. Il faut bien, c'est le choc qui produit le son. Aristote a regardé très longuement les chantres. Tiens, s'il n'y a pas de choc, il n'y a pas de son. C'est vrai ça. C'est le choc, le son, c'est évident. C'est, faut bien... S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de son. Vous savez, quand il y a « Ah, je ne veux entendre que le silence. » C'était ce surveillant qui disait ça. « Je ne veux entendre que le silence. » Est-ce qu'on entend le silence? Vous entendez dans une forêt le silence? Arrêtez, ce n'est pas le silence du tout, vous entendez. C'est comme me disait un mathématicien qui était très très poète. Les mathématiciens sont facilement poètes. C'est merveilleux. une forêt, ça chante. Et c'est vrai que ça chante, une forêt. Pas à cause des oiseaux, mais la forêt chante. Et le bruit de la forêt. La nuit. Mais comment la nuit, vous entendez beaucoup plus de sons que la journée. Ceux qui ont veillé, surtout quand on veille par rapport à un ennemi qui peut venir dans une forêt, c'est extraordinaire. Vous entendez des tas de choses. Parce qu'il y a une feuille par terre, ça grouille partout. Puis il y a le chant des feuilles. Vous voyez, le son, le silence. Alors c'est très curieux, hein. Quand Aristote définit le son en acte venant à se produire est toujours l'action de quelque chose par rapport à quelque chose et dans quelque chose. Il y a les trois choses. C'est pas n'importe quelle action, c'est une action physique dans un milieu. C'est en effet un choc qui produit le son. Voilà pourquoi il est impossible qu'un objet unique produise le son. C'est la différence de la lumière. La lumière est simple. Le son n'est jamais simple. Alors, c'est par là que vous voyez la supériorité de la vision sur le son. Parce que le son est toujours complexe. Toujours une harmonie. Vrai que la lumière donne le sens de la simplicité. Pourquoi, voilà pourquoi il est impossible qu'un objet unique produise le son. Autre est l'objet qui frappe, autre celui qui est frappé. Hein? Pas toujours commode, hein? Pas la différence. Parce que celui qui frappe et celui qui est frappé, moi c'est la rencontre des deux qui fait le son. Autre est l'objet qui frappe, autre celui qui est frappé. Par suite, l'objet qui produit le son ne le produit qu'en rapport avec quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Toujours le lien, la relation. En outre, le choc n'a pas lieu sans mouvement de translation. C'est évident, dans notre monde physique. Donc, le mouvement est lié au son. Et c'est pour ça que dans une forêt, on voit des arbres, suivant, il y a un son qui se produit à ce moment-là. Le son du cyclone n'est pas le même que celui du petit matin où tout est calme, paisible. Le son est tout à fait différent. Et vous savez bien, quand vous entrez à toute vitesse dans une salle, comme un ouragan, il y en a qui sont comme ça, c'est des ouragans. Bien au contraire, d'autres personnes qui entrent tout doucement, on les entend même. Silence d'action, comme on dit, hein, les terminologies très très monastiques. Il y a le silence de la parole et le silence de l'action. Et l'action est source du son. C'est curieux le silence de l'action. Parce que l'action est source de bruit. Et comme nous l'avons dit, voyez le choc, ce n'est pas le choc de n'importe quel corps qui constitue le son. Aucun son ne se produit si l'on frappe de la laine, à la différence de l'airain ou des corps lisses et creux. L'airain produit un son car il est lisse, tandis que les corps creux, en raison de la répercussion, produisent de nombreux chocs à la suite du premier, l'air ébranlé, ne pouvant s'échapper. L'écho. Dans une caverne. C'est évident. Il y a quelque chose de particulier. Donc, vous voyez, cette analyse très simple. Qu'est-ce qui produit le choc? Qu'est-ce qui produit le son? Le son est lié au mouvement. La lumière, pour Aristote, est au-delà du mouvement. Ce sont des constatations qui restent vraies, ça. Et c'est par rapport au monde physique, vous voyez, ça qui est intéressant, c'est qu'Aristote voit toujours ces deux aspects, le monde sensible, est lié au monde physique. Mais le monde physique n'est pas le monde sensible. Le monde sensible est autre chose. Le monde physique est lié au monde végétatif. Tout à fait. C'est sûr. L'aspect quantité joue énormément dans la vie végétative. La quantité joue beaucoup moins dans le monde sensible. Vous êtes beaucoup plus... La quantité est beaucoup plus absorbée, c'est la qualité qui domine. C'est la qualité qui domine dans le monde proprement sensible. C'est le monde qualitatif. Il y a un sens à la quantité quand vous mangez beaucoup. Quand vous venez un petit tonneau, c'est sens à la quantité. Ça. Tandis qu'au contraire, la vie sensible, c'est la qualité. Et c'est la qualité qu'on recherche avant tout. De plus, on perçoit le son dans l'air et aussi dans l'eau, quoique moins parfaitement. Donnez un concert aquatique. C'est très particulier, ça. Parce qu'il y a des instruments qui ne marchent plus. C'est évident. Des instruments aquatiques. Donc Aristote a constaté que la transmission du son, c'est l'air et l'eau. Mais la cause déterminante du son n'est ni l'air ni l'eau. Ce qu'il faut, c'est un choc de corps durs, l'un contre l'autre, et contre l'air. Donc toujours cette idée du choc, cette idée du mouvement, cette idée de la réaction. Donc, c'est lié, vous voyez, à la lutte. Cette dernière condition se réalise lorsque l'air résiste au choc et ne se dissipe pas. C'est pourquoi, lorsque le choc est rapide et violent, l'air résonne. Il faut en effet que le mouvement de percussion soit plus prompt que la dissipation de l'air, comme si l'on voulait frapper un tas ou une série de grains de sable animés d'un mouvement rapide. Quant à l'écho, il se produit lorsque l'air, maintenu en une seule masse par la cavité qui le limite et l'empêche de se dissiper, renvoie l'air extérieur comme une balle. Comme une balle. Il semble que toujours un écho se produise, mais il n'est pas toujours clair. Parce qu'il y a toujours une caisse de résonance. C'est pas quand vous tapez ici, il y a la caisse de résonance. Donc il y a un écho. Mais si la caisse de résonance est trop forte, trop grande, trop vaste, et que le choc n'est pas assez violent, il n'y a pas d'écho. L'écho est perdu, dissipé. Tandis qu'au contraire, si la caisse de résonance est petite, l'écho se fait tout de suite sentir. Vous voyez, les conditions qu'Aristote regarde, c'est les conditions. Qu'est-ce qui spécifie ? C'est le son. Mais le son est lié au mouvement. Condition sine qua non. Vous pouvez mesurer le mouvement, vous ne pouvez pas mesurer le son. Vous pouvez mesurer les échos, on ne peut pas mesurer le son. Puisque le mouvement sensible commun, le choc sensible commun, le son sensible propre, vous n'avez jamais touché un son. Vous avez entendu un son. Vous n'avez jamais touché un son. Vous n'avez jamais vu un son. Moi, j'en ai jamais vu. Vous n'avez jamais senti.